With the atomic bomb, for better or for worse, a new age has been born.
Août 1945. Pour la première fois dans l'histoire, les États-Unis larguent des bombes atomiques sur les villes japonaises de Nagasaki et d'Hiroshima. Bilan des attaques, plus de 200 000 morts et de nombreux blessés. Cette femme que le pape François a rencontrée hier lors de son voyage au Japon est une des dernières survivantes de la bombe nucléaire. Une arme immorale, selon le souverain pontife qui appelle à y renoncer.
L'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est aujourd'hui plus que jamais un crime.
Cette déclaration embarrasse la France, car la dissuasion nucléaire constitue le socle de la défense tricolore, avec un but affiché, empêcher la guerre.
La dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense, et elle le restera.
Lancé en 1945, le programme nucléaire militaire français a été conçu pour préserver la sécurité et les intérêts vitaux du pays contre toute agression.
Pendant que les autres se sont fait et continuent de se faire, des armes capables de détruire l'univers et nous aussi, et il s'agit de savoir si nous aurons, nous aussi, de quoi nous défendre.
Depuis, le monde a changé. De nouveaux pays se sont dotés de la bombe atomique. D'autres rêvent de la détenir un jour. Alors, le recours à l'arme atomique peut-il se banaliser? Avec quel risque pour l'humanité? La dissuasion nucléaire garantit-elle vraiment la paix?
Téléspectateurs qui vous posent la question suivante. L'Europe vit-elle en paix depuis 1945 grâce à la dissuasion nucléaire? Général Trinquant, c'est un argument qu'on entend assez souvent du côté des défenseurs de la bombe. Si on met de côté la guerre civile en ex-Yougoslavie, on peut dire qu'effectivement le continent a été plutôt épargné par la guerre. Est-ce qu'on peut l'attribuer à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, à cette dissuasion
nucléaire? Oui, je pense qu'on peut l'attribuer effectivement à l'équilibre de la terreur avec des hauts et des bas. Hein. Il faut se souvenir que pendant cette période, il y a ce qu'on appelle l'armement stratégique, qui est effectivement l'équilibre de la terreur, et qui rentre dans la position française. C'est une arme de non-emploi, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. Alors que les Américains avec les Pershing et les Russes avec les SS-20 avaient déployé des systèmes moyens, voire de courte portée, et la stratégie
soviétique... Donc au-delà de la dissuasion, là.
Voilà, bien sûr, et la stratégie soviétique utilisait l'arme nucléaire dans le cadre du combat, ce qui n'était absolument pas la position française.
Le chiffre du jour.
Bien, c'est 9.
Benjamin.
Comme 9 pays dans le monde qui détiennent la bombe atomique, les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, Israël, hein, même si l'État hébreu n'a jamais confirmé ni démenti qu'il détenait l'arme atomique, et enfin, bien sûr, la Corée du Nord. Alors, Nathalie Guibert, est-ce qu'il y a on peut imaginer que l'un de ces 9 pays se soumette un peu à l'injonction du pape aujourd'hui d'abandonner la bombe atomique?
Aucune chance. Franchement, aucune chance dans les circonstances actuelles et dans la. Il faut bien se revenir à la question première. Pourquoi un pays aujourd'hui cherche à se doter de l'arme nucléaire parce qu'il estime que ça va être une protection pour lui et que ça va garantir sa sécurité. Donc la raison profonde, c'est une raison de garantie pour son territoire. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des pays qui se sentent en paix ou menacés par personne, bien au contraire. Donc je pense qu'il n'y a strictement aucune chance que cette injonction soit suivie.
Et en même temps, Ariel Denis, il y a moins de têtes d'ogives nucléaires aujourd'hui dans le monde. De fait.
Il y a moins de têtes nucléaires qu'il y en avait pendant la guerre froide, par exemple. On a atteint des chiffres astronomiques, 70 000, 80 000. Aujourd'hui, on est entre 14 000 et 15 000 têtes nucléaires. Mais j'ai repéré un chiffre qui m'a vraiment impressionné. On est quand même à 245 kilos d'équivalent TNT par personne.
Par personne. Rapporté à la population de la planète.
Voilà, c'est-à-dire 1,9 gigatonnes de TNT.
Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été modernisé? Il y en a moins, mais elles sont peut-être plus modernes, plus performantes et donc plus dévastatrices potentiellement.
Voilà, ces armes sont plus modernes, plus performantes, elles peuvent partir plus vite, et on est en train d'étudier la possibilité que l'intelligence artificielle entre dans le processus de commandement et de déclenchement pour le cas où, par exemple, un chef d'État soit pas efficace ou plus efficace pour lancer l'ordre. Donc on est vraiment sur une pente extrêmement dangereuse et je voudrais souligner l'importance du courage et de la lucidité du pape François quand il dit la bombe atomique est un crime contre l'humanité, sa dignité, mais aussi contre toute possibilité de maison commune. Et je crois que c'est là qu'on est aujourd'hui.
La clé, c'est la maison commune. Général Trinquant, il y avait eu un traité de non-prolifération, le traité de non-prolifération qui prévoyait le désarmement nucléaire total. C'était une sorte d'objectif, de but.
C'est un objectif, évidemment. C'est un objectif.
C'était il y a 50 ans, en 68.
Oui, mais bien sûr. D'abord, je reviens à la prolifération. Le problème vient essentiellement des armes qui sont mal contrôlées, entre guillemets. L'intelligence artificielle, pardonnez-moi, mais dans le déclenchement de l'arme atomique, je ne le vois pas pour demain. J'invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à un film qui traite un peu de ce sujet-là, sur les sous-marins nucléaires français, qui s'appelle Le Chant du Loup, et qui vous montre parfaitement le processus. Et le processus, il vient d'une décision légalement établie. Le problème, ce sont les armes qui ne sont pas contrôlées. Vous parliez ou mal contrôlées. Aujourd'hui, ce qui fait très peur, c'est le problème de la prolifération des armes nucléaires qui pourraient partir, par exemple, du Pakistan vers des mouvements terroristes islamistes, ou bien, on l'a vu, les réactions entre M. Trump et la Corée du Nord, qui sont d'un contrôle relatif. Donc, c'est ça qui est... Et ça, c'est le premier pas. Évidemment que la dénucléarisation à terme, c'est l'objectif que tout le monde va poursuivre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et je rappelle simplement, pour revenir sur la carte, je regardais la carte tout à l'heure, c'est intéressant. Et vous parliez de la voix du pape, que j'écoute avec beaucoup de respect et beaucoup d'attention. Mais globalement, il peut s'adresser qu'à la France. C'est le seul pays catholique de la, qui détient une arme nucléaire. D'accord. Donc évidemment, ça rend la balance un peu déséquilibrée.
On en parlera tout à l'heure, mais on va revenir sur le cas du Pakistan et de l'Inde, sa relation avec son voisin.
Ouais, l'Inde et le Pakistan qui sont donc deux puissances nucléaires et deux pays qui accumulent les désaccords, c'est le moins qu'on puisse dire, et les tensions depuis 70 ans. Ils se disputent en particulier la région du Cachemire et c'est un conflit qui s'est intensifié, on l'a vu cet été, après l'abrogation de l'autonomie du Cachemire par le gouvernement indien. Depuis, on peut le dire, les deux armées sont sur les dents et c'est ce qui a inspiré une étude scientifique glaçante qui a été publiée au début du mois d'octobre dans une revue américaine qui s'appelle Science Advances. Des chercheurs ont imaginé modéliser un conflit qui pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Ça fait très peur. C'est un scénario catastrophe qui commence par l'attaque en 2025 du Parlement indien par un commando. L'Inde envoie des chars vers son ennemi. Le Pakistan réplique avec ce qu'il appelle des petites bombes nucléaires. Et c'est donc l'escalade vers une guerre majeure et absolument dévastatrice. Avec leurs calculs, les scientifiques concluent qu'en utilisant à peine un tiers de leur arsenal, les belligérants, les deux pays, provoqueraient la mort immédiate de 50 à 125 millions de personnes. Et les conséquences dépasseraient évidemment très largement le sous-continent indien. Environ 25 millions de tonnes de suie seraient rejetées dans l'atmosphère par les explosions et les nombreux incendies, ce qui réchaufferait l'air, plongerait littéralement le monde dans la pénombre, c'est-à-dire que la fumée réduirait de 35% la lumière qui atteint la Terre, celle qui nous parvient, les précipitations réduiraient de 30% et créeraient des pénuries alimentaires sur l'ensemble de la planète pendant au moins 10 ans. Il y a encore d'autres conséquences qui sont listées dans cette revue scientifique. Nathalie Guibert, est-ce que ça montre qu'avec la bombe atomique, aucun conflit ne peut rester strictement local? Là, en l'occurrence, ça commencerait là et ça aurait des conséquences pour absolument tout le monde.
Mais la bombe atomique, depuis son origine, elle apparaît comme une arme totalement exorbitante et par nature différente de toutes les autres, puisqu'effectivement, depuis les deux premières, à Nagasaki et à Hiroshima, on a compris qu'elle portait la possibilité d'anéantir l'humanité. Donc qu'il y ait 15 000, 30 000 ou 1 000 têtes nucléaires aujourd'hui, c'est de nature à enclencher la fin de l'humanité.
Et ce scénario catastrophe, il est tangible aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est la grande crainte de tous les observateurs, et y compris des experts nucléaires, c'est que tous les instruments qui permettaient un dialogue sur l'arme nucléaire, c'est-à-dire les traités de non-prolifération, tous ces instruments de dialogue, ils sont en panne, ou alors ils sont boycottés, ou alors instrumentalisés par des puissances qui font que on manque de capacité de dialogue. Et donc tous les incidents, effectivement, les scénarios d'escalade peuvent trouver place dans cette situation. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution à tout ça, mais c'est vrai que des pays qui ont considéré, comme l'Inde et le Pakistan, qu'ils pouvaient utiliser des armes tactiques, c'est-à-dire des armes de taille modeste, si tant est qu'on puisse en parler en matière nucléaire, et à courte portée, ces pays-là peuvent rentrer dans des scénarios d'escalade, ouais. Effectivement.
Général Trinquant, il y a eu quand même un traité d'interdiction des armes nucléaires, c'est le Tian, hein, ça date de 2017, le Saint-Siège l'a d'ailleurs signé, mais aucune puissance nucléaire aujourd'hui ne l'a signé, ce qui montre qu'il n'y a aucune volonté de ces puissances d'envisager un quelconque désarmement.
Si, envisager un désarmement, mais vous aviez raison de souligner, le problème c'est l'absence de dialogue. Tant qu'il y a un dialogue et l'objectif fixé, on peut progresser. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Et je retiens une deuxième chose que vous avez citée toutes les deux, c'est ce qu'on appelle les petites bombes, les bombes tactiques. Oui. C'est l'escalade. Nous, notre position depuis la disparition des Plutons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu des missiles dits tactiques en France aussi, c'est que ça n'existe pas. C'est le non-emploi.
La France a arrêté ça, vous voulez dire ?
Bien sûr, complètement. Voilà. C'est le non-emploi. À partir du moment où le président de la République serait à appuyer sur le bouton, c'est que la guerre nucléaire est déjà enclenchée. Vous voyez, c'est pas en premier emploi d'abord. Hein. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le dialogue pour arriver à diminuer le nombre de têtes, ça a déjà été fait. Alors, les têtes sont généralement plus précises. Elles sont pas beaucoup plus puissantes. On n'augmente pas beaucoup la puissance aujourd'hui, ça veut rien dire. Mais en revanche, elles sont plus précises. Mais surtout, ce qui augmente beaucoup, c'est la capacité de destruction des missiles en vol ou au départ. C'est-à-dire d'empêcher l'autre d'utiliser l'arme nucléaire. Et donc ça, mais effectivement, il y a des phénomènes déclencheurs qui peuvent m'amener à des escalades catastrophiques. Je suis d'accord.
Alors, faites-nous écouter un chef d'État qui semble contaminé par l'envie de la bombe.
Bien oui, parce qu'en même temps, vous parlez de dialogue, mais certains pays disent aux Occidentaux et aux autres qui ont déjà la bombe atomique, faites ce que je dis parce que je fais, c'est bien gentil. C'est le cas du président turc Erdogan. On va l'écouter.
Certains pays ont des missiles avec des têtes nucléaires, et pas un ou deux. Mais nous ne pouvons pas en avoir. Et ça, je ne peux pas l'accepter. À l'heure actuelle, presque tous les pays du monde développé ont des missiles nucléaires.
C'est compliqué, Ariel Denis, de lui dire le contraire, de le démentir, le président turc.
Et c'est pour ça que la dissuasion est un principe particulièrement instable. Parce que le fait que des pays prétendent avoir besoin de l'arme atomique pour se défendre, fait que d'autres disent moi aussi, pourquoi pas moi. Et donc dans les années 60, il y avait un vrai gap technologique. Aujourd'hui, ce gap, il est comblé. Presque tous les pays peuvent construire la bombe atomique. Donc il nous faut des garde-fous politiques, des garde-fous internationaux, multilatéraux extrêmement puissants pour empêcher la prolifération dont parlait le général à l'instant.
Oui, et puis vous disiez, général Trinquant, que c'est compliqué pour la France de montrer l'exemple, en tout cas c'est elle qui devrait montrer l'exemple, si on en croit le Vatican, puisque c'est le seul pays catholique, c'est vers lui finalement que le Saint-Siège se tourne. En même temps, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on imagine Emmanuel Macron dire, non, finalement, on va peut-être donner l'exemple? Parce que ça, c'est envisageable.
Non, alors, deux points. Le premier point, c'est le seul pays catholique, il s'adresse à la population française.
Oui.
Le gouvernement français n'est pas catholique.
Est-ce que ça trouve un écho, justement, dans la population française?
Oui,
écho dans l'opinion.
Mais ça a forcément un écho dans la population. Mais
les Français sont déjà contre?
Non, vous savez que la loi de programmation militaire, la modernisation de la dissuasion nucléaire française avait été décidée par le gouvernement précédent et le président Macron l'a entérinée. Et donc, nous sommes en phase de modernisation de la dissuasion nucléaire. Ça veut dire quoi, la modernisation? Parce qu'on parle du nucléaire, mais ça veut dire beaucoup de choses. Je rappelle que la fusée Ariane n'existe que parce qu'on a des missiles stratégique M51. Sinon, il n'y aurait pas de fusée Ariane. Mais les systèmes de communication, les sous-marins, actuellement le Suffren dont on a parlé, le fait qu'il soit particulièrement silencieux, etc., tout ceci entoure ça. Donc il y a beaucoup de technologies autour. Il y a bien sûr le nucléaire, mais il est entouré de beaucoup d'autres choses.
Quand même, Nathalie Guibert, dans
vous
le débat politique,
à cette analyse,
par exemple, ça n'existe pas, le débat sur...
Alors, en France, c'est très particulier parce que la bombe atomique a été voulue par le général de Gaulle comme un instrument de souveraineté et d'indépendance nationale. Donc c'est vraiment consubstantiel à ça. Et puis ça introduit une culture. Je voulais juste faire une remarque sur les églises, parce que on a des cas de figure très différents. L'église catholique, là, avec le Vatican, vient de dire c'est immoral. L'église orthodoxe russe est totalement maintenant fusionnée avec l'État poutinien, donc défend une posture d'intimidation stratégique avec la bombe nucléaire russe. Et puis il y a le cas, il y en aurait d'autres, mais il y a le cas par exemple de l'église protestante aux États-Unis qui